Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. Pour une fois, on va faire un Flash Résultat XXL, puisque malheureusement, Fred étant malade, il n'y a pas eu de SA15 Mag Attitude, donc on va faire aussi une large page SA15 durant ce Flash Résultat. Mais avant de parler rugby, on va parler de football en commençant par la CFC. La CFC qui recevait samedi soir Angers, la réserve du SCO d'Angers. Résultat nul, un partout pour les Angoumoisins. Les Angoumoisins qui ont ouvert le score pourtant dès le début de la rencontre par Alexandre Mourabit au bout de 8 minutes de jeu. Un avantage d'1-0 à la mi-temps. En seconde période, Angers a poussé jusqu'à ce que l'éclairage de Lebon s'éteigne, puisque un des pylônes a lâché prise. Et donc l'arbitre a interrompu le match pendant près de 30 minutes. Si bien que finalement la solution qui a été choisie, c'est de rallumer Chanzy pour terminer le match en partie avec l'éclairage de Chanzy. Une reprise qui malheureusement a été à l'avantage des joueurs d'Angers qui ont égalisé, coup franc de Mouadib, repris par Sidi Niagde, l'international suisse M18, qui permet à Angers d'égaliser. Et donc malheureusement, pour les Angoumoisins, score final, un partout. C'est un point de gagné ou deux points de perdu, ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, les Angoumoisins qui restent quatrième ce soir. On était dans les vestiaires à la fin du match, et on va tout de suite écouter Mouamadou Konaté qui effectue son premier match officiel avec la CFC au stade Lebon.
Mouamadou, résultat match nul, donc un partout contre Angers. Vous marquez assez rapidement en première mi-temps et malheureusement Angers revient au score en fin de match. Pour toi, plutôt est-ce que le nul est logique?
Non, pour moi le nul n'est pas logique. Il y a plusieurs occasions qu'on ne concrétise pas, mais ils ont poussé dans les 20 dernières minutes et on n'est pas mieux rentré en fin de match et on a concédé ce but, malheureusement. Mais comme le coach l'a dit, c'est qu'on a pris un point quand même, on n'a pas perdu, on reste sur la série. Et là, il y a une finale à jouer, chaque match, ça sera une finale. Dans le même état d'esprit, il n'y a pas de raison.
Bon, contrairement à la semaine dernière, finalement, c'est ce deuxième but que vous ne marquez pas qui fait la différence.
C'est exactement ça. La semaine dernière, on met le deuxième but, à la fin on en prend un, mais on a toujours ce but d'avance.
On t'a vu dans une défense à 3 ce soir avec Baba Touré et Chris Gotteni. J'imagine que pour toi, qui est un jeune joueur, d'évoluer avec ces deux joueurs qui ont beaucoup d'expérience, c'est enrichissant.
Oui, c'est enrichissant, avec Pat aussi qui est à mes côtés. Franchement, c'est un plus. J'ai des joueurs de qualité à côté de moi, donc je suis obligé de me mettre au diapason et au niveau. Et voilà.
Et donc tu es arrivé à Angoulême en janvier, fin janvier, tu as joué plusieurs matchs avec l'équipe réserve, c'était ton deuxième match en première et ta première à Lebon dans un grand match, on va dire, parce qu'avant c'était avec la réserve. Comment tu as vécu un peu ce soir et puis globalement ton adaptation à Angoulême?
Franchement, le groupe vit bien. Franchement, c'est ce qui m'a marqué dès que je suis arrivé ici. Tout le monde pousse vers le haut, il n'y a pas de mauvaise concurrence, même les gens qui sont à mon poste me poussent et voilà. Et franchement, sur ce match-là, j'avais à cœur de faire un gros match à domicile. Les supporters ne me connaissaient pas. J'espère que ça avait été. Malheureusement, on n'a pas pris la victoire. Mais pour ma part, je pense que j'ai fait un gros match. À ce but, quand les défenseurs, on n'a pas à prendre deux buts. Donc, c'est ce but-là qui m'a enfreint, quoi. Mais comme le coach l'a dit encore une fois, il y a des finales à aller chercher encore, c'est pas fini.
D'ailleurs, on va aborder rapidement ce match de Bergerac la semaine prochaine. Oui. C'est contre une équipe du podium, c'est un match super sympa à jouer.
Oui, c'est ça. C'est comme celui-là, contre une réserve pro. C'est un vrai test, en vrai, même pour moi, parce que je suis un jeune joueur.
Donc, en plus, tu découvres le National 2.
Oui, c'est mon deuxième match, 90 minutes. Moi, ça fait toujours plaisir.
Voilà, et comme une réaction peut en cacher une autre, on était également à la fin du match avec l'entraîneur de la CFC, David Jiguel, qui nous livre son analyse de la rencontre tout de suite.
David, match nul contre Angers ce soir, un partout. J'ai l'impression d'avoir vu finalement un nul assez équilibré. Vous avez eu plutôt la première mi-temps et Angers plutôt la seconde.
Ouais, c'est frustrant parce que dans ce cas de figure, quand on se fait égaliser, on a toujours l'impression d'avoir perdu un point. Alors que quand on égalise, comme l'a fait Angers, on a toujours l'impression d'avoir gagné un point. Mais à la finale, c'est les deux équipes qui prennent toujours un point, quel que soit celui qui regarde le score et quel que soit celui qui a égalisé. Donc on a de la frustration parce que parce que je pense qu'on a quand même eu malgré tout plus de situations que qu'Angers, même s'ils ont ils ont quelquefois monopolisé les ballons, ils ont eu des temps de possession qui ont été importants, mais on n'a pas été souvent mis en danger. Et les occasions, c'est nous qui les avons. Et finalement, on prend ce coup de pied arrêté là, qui est plutôt bien frappé. Voilà, on est pas au marquage, mais le gars tire dans la bonne zone. C'est pas simple à défendre ces coups de pied arrêtés là. Mais voilà, il faut accepter l'issue finale. On prend un point, on continue malgré tout notre série d'invincibilité sur les matchs retour. On aurait préféré mieux, mais il est fini celui-là, donc faut se contenter de ce qui a été pris et puis se tourner et se diriger vers une première finale qui aura lieu à Bergerac.
Un match super rythmé, notamment en première mi-temps. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Angers n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions dans la surface. Et c'est ce copier bien tiré par le 6, qu'on avait déjà tiré un au préalable, qui fait la différence en leur faveur.
Ouais, ils ont des joueurs de qualité, hein. Techniquement. C'est une équipe qui a gagné aux Herbiers.
Ouais, le 7 et le 11 sur le côté, les excentrés.
Ouais, ça va vite. Derrière, ils sont solides. Leur charnière centrale est assez solide. Ils ont des joueurs techniquement qui sont des joueurs qui aspirent à aller en Ligue 1 ou qui sont déjà allés. Donc c'était pas un match simple, mais voilà, on aurait aimé malgré tout le gagner. Et encore une fois, on a des situations, on a aussi un penalty. Alors l'arbitre a certainement voulu compenser le fait qu'il fasse reprendre, parce que les Angevins étaient dégoûtés de reprendre. Mais bon, penalty c'est penalty. Il dit à Titi qu'il est dans le coin et qu'il peut rien faire. Mais quand on se fait prendre la jambe au moment de frapper, c'est penalty pour moi. Donc voilà, toutes ces situations font que on est un peu frustré du résultat final.
Bon, d'ailleurs, on va parler de ce fait de match. Donc c'est l'éclairage qui s'est arrêté dans un premier temps, et finalement le match a été arrêté pendant une grosse demi-heure à la 70e. Mmh. Déjà, est-ce que tu avais connu ça, toi, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Et puis, quel impact ça a potentiellement pu avoir?
Oui, j'ai connu une fois ça en tant que joueur, mais le match n'avait pas repris au Red Star avec Rouen. Mais comme il restait 4-5 minutes, je crois, la commission avait décidé de nous donner match gagné. Non, bah c'est pas simple, hein, et on est obligé de s'arrêter, on sort un peu du match. Ça doit pas être une excuse. J'avais dit aux joueurs d'être très solide les 5 premières minutes, d'être concentré les 5 premières minutes après cet arrêt. C'est là où on prend malheureusement ce coup de pied arrêté. Je suis même pas sûr qu'il y ait faute, d'ailleurs, faudrait revoir, mais l'arbitre siffle une faute de Joffre, mais je suis pas certain que ce soit énorme. Donc voilà, on a manqué de concentration sur ce coup-là. Encore une fois, c'est dommage parce que sur l'ensemble du match, on aurait mérité de prendre 3 points, je pense.
Bon, et puis tu l'évoquais, la semaine prochaine, donc il y a un match très intéressant à jouer à Bergerac. Toujours un peu les matchs, généralement Bergerac vient gagner à Angoulême et puis Angoulême va gagner à Bergerac, en espérant pour vous que cette suite logique se confirme.
Ouais, on postule pour les 4-5 premières places, donc pour 1, 2, 3, 4, 5, Bergerac aussi. Donc ce sera certainement un match âpre à disputer, comme toutes les rencontres qu'on a pu jouer depuis la saison dernière contre Berge. Ils sont venus gagner 2-1 ici. On avait un petit peu donné les buts quand même. Donc voilà, ce sera un match difficile contre une belle équipe qui vient de s'imposer à l'extérieur. À nous de répondre présent, et puis j'espère que le match passera dans le meilleur état d'esprit possible et que les deux équipes offriront un beau spectacle à Bergerac, et puis que le meilleur gagne.
Donc cette poule D de National 2 est encore hyper serrée, notamment dans la course au maintien, puisque du 4e au 16e, tout le monde est concerné pour le maintien. Je vais donner les scores donc de cette 22e journée, avec la victoire d'Andrézieux contre Vierzon 3-0, la victoire de Bourges contre Moulins 1-0, la victoire de Romorantin contre Gaulle 2-1, match nul entre Nantes et le Stade Bordelais 0-0, match nul entre Trélissac et Chamalières 1 partout, match nul entre Angoulême et Angers 1 partout, victoire de Bergerac à Saumur 3-1 et victoire des Herbiers à Lorient 1-0. Au classement, les Herbiers sont en tête avec 41 points, deuxième Bergerac 38 points, troisième le Gaulle FC 37 points, la CFC est toujours quatrième avec 33 points, mais c'est seulement 5 points d'avance sur le premier relégable Andrézieux à Angoulême. Donc du 12e au 4e, il n'y a que 5 points d'écart, donc tout reste très serré dans cette poule. Prochain rendez-vous pour les Angoumoisins, ce sera vendredi prochain au stade de Camp Réal à Bergerac pour un duel entre le 2e et le 4e, en espérant que la CFC parvienne à s'imposer dans le Périgord. En Régional 1, deux matchs pour les Charentais. Cognac recevait Saint-Pantaléon et Cognac l'emporte 1-0, hein, grâce à un but de Lassoir marqué dans le premier quart d'heure. Une victoire qui fait du bien aux hommes d'Alvin Henry, qui se replace dans la course au maintien. La CFC, la réserve de la CFC s'est déplacée à Hill. Score pas de parité, de partout. Les joueurs de Hill ont marqué pourtant deux buts en première mi-temps. Et en seconde période, Inizan et Lanier permettent aux hommes de David Perrier de revenir à la marque. Donc de partout, score final, un bon point pour la CFC qui maintient Hill avec 7 points d'avance. Au classement, Brive est toujours en tête avec 41 points. On retrouve donc la réserve de la CFC 7e avec 27 points. Et Cognac qui remonte 10e avec 20 points. En Régional 2, en Poule A, match nul de Leroy chez la réserve de Bressuire, 2 partout. Les métallos sont toujours sur le podium puisqu'ils occupent toujours la 3e place du classement avec 27 points. Le maintien est en bonne voie pour Leroy dans cette Poule A. En Poule B, malheureusement, c'était plus dur pour les clubs du Cognacé puisque Merpin s'est incliné à domicile contre Cause 2-0. Cognac s'est incliné la veille à Périgny 3-1. En revanche, Charente-Limousine s'impose contre le FC Rété 2-1. Au classement, c'est l'Étoile Maritime qui est en tête. Charente-Limousine est 4e avec 27 points. Merpin est 9e avec 20 points. Et Cognac est 12e avec 6 points. Enfin, en poule D, une victoire, une défaite pour les Charentais. Victoire de Sireuil 5-1 contre Esther Gironde. Et malheureusement, défaite de Jarnac à la réserve de Mérignac et ça 2-1. Au classement, c'est la Bouscatèze qui est en tête. On descend à la 9e place pour retrouver Sireuil avec 22 points. Et Jarnac est 11e avec 16 points. En Régional 3 en poule C, malheureusement, défaite de Confolens 2-1 à domicile contre Noyer. Confolens qui avait pris un mauvais départ puisque Noyer menait 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. C'est une nouvelle défaite malheureusement pour les hommes de Vincent Villieu qui concèdent leur deuxième revers consécutif à domicile. Dans le même temps, Ruffec s'est également incliné à domicile contre Saint-Benoît, défaite 1-0 des Diables Rouges. Au classement, Ruffec est 3e avec 34 points mais compte désormais 6 points de retard sur Limoges. Et Confolens est 7e avec 20 points. Malheureusement, Confolens qui avait pris une petite marge d'avance par rapport à la lutte pour le maintien, eh bien les Confolentais reviennent dans ce peloton qui va lutter pour le maintien. En poule F, Puy Moyen Vindel a été reporté. Victoire de Saint-Aix à Coulommiers-Chamiers 1-0. Victoire de Ruel contre Thénon-Limera 3-0. Forfait de l'équipe donc de Thénon-Limera. Match nul entre Soyaux et Périgord Centre, 1 partout. Et match nul également entre La Roche-Rivière et Verneuil-sur-Vienne, 1 partout. Au classement de cette poule, Saint-Aix est toujours en tête. Saint-Aix compte 13 points d'avance sur Coulommiers-Chamiers. Donc 13 points d'avance à 5 journées de la fin. Les joueurs de la CIS sont presque en Régional 2. Soyaux est 5e avec 26 points. Vindel est 6e avec 25 points. La Roche-Rivière est 7e avec 21 points. Puy Moyen est 8e avec 20 points. Et enfin, Ruel est 11e avec 16 points. Donc une course au maintien qui est hyper serrée entre le 7e et le 11e. Enfin en poule G, l'Alliance 3B concède le nul à domicile contre Saint-Palais. 2 partout. Les hommes d'Adnan Elerchi sont toujours en tête avec 47 points. C'est 14 points d'avance sur Rive Droite 33 qui compte un match en retard. En district, je vais donner les résultats 2-1. Avec un match qui n'a pas pu se jouer à cause des conditions météo, c'était le match entre l'Alliance 3B et Moutier. Dans les autres scores du week-end, Roulet s'incline à domicile contre Brie 5-3, Merpin et Champigny font 2 partout, Saint-Michel gagne au Portugais du Gond 2-1, Leroy et les Sacs font 1 partout, et enfin Basso gagne à la Couronne 5-2. Au classement, Saint-Michel est premier avec 33 points, deuxième Champigny 33 points, troisième Basso 33 points également, c'est hyper serré entre les trois premiers. Les Sacs est quatrième avec 27 points en bas de tableau, Leroy est neuvième avec 16 points, dixième La Couronne 14 points, onzième Roulet 11 points et 10 points pardon et 12e les Portugais Dugon avec 8 points. En D2 en poule A, beaucoup de matchs ont été arrêtés à la mi-temps pour diverses raisons. Verdi Saint-Aix a été arrêté pour une panne d'éclairage. Sireuil Belair, La Roche-Rivière, Mornac et Manle-Ruffec ont été arrêtés à la mi-temps à cause de la pluie. Donc seulement deux matchs, deux scores ce week-end dans cette poule A. Montbron a battu Aigre 3-0. Chasseneuil et Charente-Limousine, pardon, font match nul 1 partout au classement. Sierre est toujours en tête avec 31 points. Désormais talonné par Chasseneuil qui est deuxième avec 29 points. Mais donc Chasseneuil compte un match en plus en bas de tableau. Ruffec et Aigre sont 9e et 10e avec 16 points. La Roche-Rivière est 11e avec 15 points. Et Mansle est dernier, donc 12e avec 8 points. En poule B, Grande Champagne s'impose à Champigny 1-0. Saint-Séverin s'impose à Nersac 3-1. Jarnac bat Montmoreau 5-1. Chazelle bat Châteauneuf 3-0. Linard bat Saint-Brice 6-1. Et Ruel s'impose contre Sud-Charente 8-1. Au classement, Linard est toujours en tête avec 40 points. On va parler désormais de l'Agisoyo en D1 féminine. L'Agisoyo qui se déplaçait à Reims. Un déplacement important puisque Soyo est toujours dans la zone rouge et toujours en recherche de points. Et malheureusement pour Soyo, c'est une défaite 3-1. Les Rémoises avaient ouvert le score avant l'égalisation de Binta Diakité. Et malheureusement, en fin de match, l'Agisoyo va encaisser 2 buts. Dans les 5 dernières minutes et donc s'incliner à Reims 3-1. Les autres scores de cette D1 Arkema: Le Havre et Fleury font 1 partout, Bordeaux et le Paris FC font 0-0, Rodez gagne à Dijon 2-1, Lyon bat Guingamp 6-0 et enfin le Paris Saint-Germain bat Montpellier 1-0. Au classement, premier Lyon 46 points, deuxième le Paris Saint-Germain 45 points, troisième le Paris FC 34 points. Donc Soyo est 12e avec 6 points. Toujours 6 points de retard sur Dijon, mais Rodez qui a gagné contre Dijon revient à 1 point de Dijon. Donc du coup, Soyo malheureusement est désormais décroché dans cette course au maintien. On va parler désormais du SA15, de la Pro D2, avec un format un peu plus appuyé. Le SA15 se déplaçait à Aurillac vendredi soir, défaite malheureusement des hommes de Vincent Etchetto 16-13. J'ai envie de dire que c'est le match des occasions ratées. Le SA15 avait l'occasion de remporter ce match plusieurs fois proche de la ligne d'essai, et puis même Jacob Botica qui lâche 3 points au pied. Et finalement, Aurillac l'emporte 16-13. Un bonus défensif pour le SA15 qui encaisse le premier essai du match à la 6e minute, et c'est d'Antoine Ocagne transformé par lui-même. Donc Aurillac prend rapidement les devants 7-0. Botica réduit l'écart à la 11e minute 7-3 pour Aurillac avant que Ocagne n'ajoute 2 pénalités avant la mi-temps au 35e et 26e minute, si bien que à la mi-temps Aurillac mène 13-3. Au retour des vestiaires, Botica réduit un peu la marque, 47e minute sur une pénalité, 13-6 pour Aurillac. Aurillac qui reprend 10 points d'avance, pénalité d'Ocagne à la 50e minute, on est donc à 16-6. Et bah, il va y avoir un carton jaune pour Tyson Didier pour Aurillac, et l'essai de Olé Avei suite à un super mouvement collectif transformé par Jacob Botica. Le SA15 donc revient à 16-13 et malheureusement va mourir à 3 points d'Aurillac. Donc un bonus défensif pour le SA15. Et donc nous étions dans les vestiaires à la fin du match avec Vincent Etchetto et avec Gauthier Gibouin. On refait le match avec eux tout de suite.
On fait pas une bonne première mi-temps. On n'est pas assez virulent. On se fait rentrer sur tous les rocs et donc on n'arrive pas à avoir des ballons rapides pour mettre le jeu en place. Après la deuxième mi-temps, ça doit être une mi-temps référence. On a des ballons, on marche sur ballon porté, on les transperce une dizaine de fois, on ne concrétise pas. Donc la zone de marque, la fameuse zone de marque, on doit être plus efficace. J'en parlais mardi en conférence, on n'est pas assez efficace par rapport à la possession qu'on a et au temps de jeu qu'on a. Après, je pense que l'arbitre doit être un peu plus courageux sur la dernière possession. On fait 15 temps de jeu, ils sont au moins 3 fois à la faute sur la séquence. Et on doit faire au moins match nul aujourd'hui. Voilà. Je pense que les joueurs, ils savent la première étape, les manques qu'on a en première étape, je pense qu'ils se sont fait plaisir. Il y avait cette fatigue, le capot était ouvert là, à la fin du match, mais plus chez Aurillac que chez nous, parce qu'on a mis beaucoup de rythme. Mais voilà, on tend à ça, mais tout, si on fait ce rugby-là, il ne payera que si on est efficace dans les zones de marque. Il y a un ballon porté, mais le nombre de temps qu'on a passé, le nombre de temps de jeu qu'on a produit, on doit être plus récompensé, je pense, avec une ou deux pénalités de plus, surtout à la fin. Et nous, on doit être plus efficace dans cette zone, ce qu'on appelle la score zone, François Létueur.
Mentalement, ça, sur ces secteurs, on est plutôt bien depuis 6 matchs. C'est aussi là-dessus qu'on a construit notre bonne dynamique. Après, voilà, comme le dit Vincent, là, sur le match, on n'a pas été efficace dans la score zone. On a été trop indiscipliné dans l'entrejeu. Et aussi, toutes les fois où en fait, on a réussi à revenir au score, Météoriac à remarquer des points. On n'a pas été propre sur nos sorties. On savait que c'était une équipe qui contestait beaucoup dans les rucks et on n'a pas été propre là-dessus. Nos demi de mêlée n'ont pas été un peu forts. Ils ont eu des ballons pourris pendant 50 minutes et c'est un peu ce qui nous touche ce soir aussi. On a rivalisé en conquête et même parfois dominé peut-être l'une des meilleures conquêtes du championnat. Comme Vincent l'a dit, dès qu'on arrive à mettre notre jeu en place, à mettre du rythme, on voit qu'on est dangereux. Et après, le point très positif, c'est que là où on se perd le match ce soir, ça dépend que de nous. On reçoit avec vendredi prochain. Lundi, ça peut être réglé. Hein. Il suffit que chacun se trouve dans la glace, qu'on voit ce qui n'a pas été. On a tous fait des fautes, on a tous fait des erreurs. Et voilà, on peut les corriger très vite.
C'est sûr que comme on tourne en gagne à Gers, c'est comme on tourne en gagne de l'équipe, mais ils ne sont pas dans une situation très positive. Ils vont gagner à Gers, donc c'est surprenant. Carcassonne a failli gagner à Béziers, mais ça, c'était un peu plus probable, puisque c'est un quasi-derby. On est entre nous et on va se sauver tout seul, on ne va pas compter sur les autres. Donc là, même si on n'avance pas beaucoup, on avance. Un point de bonus défensif, c'est avancé déjà. Parce qu'on a raté tellement cette année, à la dernière minute, qu'il fait toujours du bien. Et puis on a un rendez-vous, vu que les exploits misés venaient gagner chez nous, il va falloir que ça costaud.
Je vais donner donc les scores de Pro D2 de cette journée. Provence Rugby qui s'impose à domicile 25-18 contre Colomiers. Mont-de-Marsan qui s'impose à domicile contre Biarritz 31-21. Vannes qui s'impose contre Rouen 47-24. Agen, c'est la grosse surprise du week-end, qui s'incline à domicile contre Montauban 22-26. Béziers bat Carcassonne 18-17. Nevers bat Massy 36-12. Le SA15 s'incline à Aurillac 16-13. Et enfin, Oyo gagne à Grenoble, 28-24. Au classement, premier Oyo avec 92 points. Deuxième Grenoble, 70 points. Troisième Mont-de-Marsan, 69 points. Quatrième Agen, 67 points. Cinquième Nevers, 64 points. Sixième Vannes, 63 points. Septième Colomiers, 62 points. Huitième Biarritz, 60 points. Neuvième Provence Rugby, 59 points. Dixième Aurillac, 56 points. Onzième Béziers, 55 points. 12e Rouen, 47 points. Là, on entre dans le wagon des équipes qui vont lutter pour leur maintien. 13e, le SA15 avec 43 points. 14e, Carcassonne, 42 points. Sont relégables aujourd'hui Montauban, 15e avec 41 points. Et Massy, 16e avec 29 points. Pour les supporters du SA15, rendez-vous vendredi soir au Stade Chanzy. Le SA15 recevra Provence Rugby. Un match important pour le SA15 qui est toujours en lutte pour son maintien. On va parler des espoirs également, les espoirs qui recevaient Perpignan. Et c'est une victoire des espoirs, 9-6, avec 9 points donc obtenus par Jules Dubec au pied sur 3 pénalités. Une victoire importante pour le SA15 qui compte désormais 8 points d'avance sur Vannes, la lanterne rouge. Donc les espoirs sont en bonne passe pour pouvoir se maintenir. L'UCS jouait également. L'UCS jouait contre Narbonne à domicile. Et malheureusement, c'est une courte défaite de l'UCS. Défaite 7-3 des Cognacés qui n'ont pas démérité, mais qui malheureusement sont en quête toujours d'un premier succès. En Fédéral 1, Barbezieux tombe avec les honneurs du côté de Perreux au Rad, défaite 28-24 dans les Landes de l'UBJ, mais l'UBJ qui prend un bon point de bonus défensif. En handball, match important pour les Tech qui s'est déplacé chez le leader Bruges, match nul 30 partout. Les Tech compte toujours 3 points de retard sur Bruges, qui reste toujours dans la course à la montée, mais ça va être quand même compliqué. Et enfin, en National 1 féminine, l'ACH était exempte dans cette poule de 13 équipes. Et donc, le Cognac LJO recevait Bordes et malheureusement, défaite de Cognac 28-17. On va terminer ce flash résultat par du judo avec deux informations. La première, c'est la médaille d'argent d'Ilana Bouvier sur la Coupe d'Europe Junior de Coimbra au Portugal. Ilana Bouvier qui s'incline en finale contre une autre Française. Et la deuxième information, c'est la médaille de bronze de Drea Bester sur la Coupe de France individuelle minime qui se déroulait, il me semble, à l'Institut du Judo. Donc Drea Bester termine 3e en moins de 36 kilos. On se retrouve tout de suite dans Culture Sport avec le club de La Rochefoucauld Rugby et son entraîneur Brice Coulombex. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur Attitude 90.3, 90.7, www.attitudefm.com et bien entendu partout dans le monde sur notre site internet. Vous écoutez Attitude, c'est votre émission Culture Sport, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui le Rochefoucauld Rugby, donc avec Brice Coulombex, pardon, coach, et Christian Lamazon, président. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue.
Merci à vous.
Merci.
C'est un plaisir de vous recevoir. On s'était vu l'année passée, donc on avait passé un bon moment ensemble. Ce que je vous suggère, messieurs, c'est de faire un retour sur une année passée qui a été un petit peu chaotique. Mais bon, si vous pouvez nous en dire deux, trois mots, ce sera avec plaisir.
L'an dernier, c'était une saison où on avait fini pas trop mal. On avait fini troisième de poule. Donc tout s'était bien passé. On a fini la saison avec tous les feux au vert. Pas trop de blessés, de l'effectif pour l'année d'après, l'école de rugby qui grandissait. Donc voilà, la saison d'avant était vraiment une bonne saison.
Oui, vous repartiez sur une bonne dynamique. C'est vrai que vous avez connu peut-être quelques années difficiles auparavant, peut-être un manque de licenciés. Et là, c'est vrai qu'avec l'école de rugby qui repartait de l'avant et puis votre belle saison, ça repartait vraiment de l'avant.
Oui, puis une équipe de dirigeants motivés. On a récupéré quelques sponsors et tout. Tous les feux étaient ouverts pour cette saison.
Après cette belle saison, donc 2021-2022, c'était quoi les objectifs pour cette saison 2022-2023?
L'objectif, ça aurait été la montée. Bien sûr, ça aurait été l'idéal. Après, quand on a vu les poules qui s'alignaient dans le championnat, on s'est dit que ça allait être très, très compliqué. Et puis, en effet, ça a été compliqué, ce qui fait que aujourd'hui, on est un petit peu déçu de notre classement quand même.
D'ailleurs, on va faire un point sur les forces en présence de votre poule, parce que ça m'a l'air vraiment à double vitesse, parce qu'il y a des scores chaque week-end assez larges. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour un peu de chaque équipe qui compose votre poule, et puis si ça joue le haut ou le bas de tableau?
Bah, de toute façon, on peut le voir rien qu'au niveau des points du classement. C'est que dans la même poule, il y a vraiment deux catégories, quoi. C'est-à-dire que le premier, Ruffec, 71 points. Deuxième, Châtellerault, 69 points. Troisième, Saint-Georges-les-Baillargeaux, 63. Quatrième, Loudun, 59. Confolens, 56. Et nous, 49. Et alors après, les quatre derniers, Poitiers, 28 points. Chabanais, 16 points. Et puis UBJ et Montbron, malheureusement, qui ont fait forfait général, 0 points.
Ah oui, donc c'est vraiment... Il y a les quatre derniers, puis après les autres, j'ai envie de dire, pratiquement. Enfin, les quatre premiers, les quatre derniers, puis le ventre mou du championnat.
Voilà, c'est ça. Le ventre mou fait par Confolens et la Rochefoucauld.
Et donc, ouais, vous êtes du coup dans le ventre mou.
Voilà, c'est ça.
C'est pas frustrant, justement, d'être dans ce ventre mou, se dire que... Bah, que sportivement la saison, les deux premières places sont jouées assez rapidement et on se rend compte assez rapidement que les deux premières places vont être très compliquées à atteindre.
Bah, le gros problème qu'on a eu, c'est pas le fait de, on a été pendant un petit moment troisième du groupe. Le gros problème cette saison qu'on a, c'est qu'on perd des matchs clés. D'un point contre Loudun, on perd de 3 ou 4 points contre le premier à Châtellerault. Le gros point noir de cette saison, c'est qu'on n'a pas eu un excellent buteur. On a perdu trop de points au pied. Voilà, c'est ce qui nous a pénalisé sur cette saison-là.
Oui, parce qu'au final, c'est vrai qu'en lâchant des points au pied, les écarts de 3, 4, 5 points, au lieu d'être en votre faveur, ils sont en votre défaveur.
Exactement, c'est ce qui a causé, entre guillemets, le fait d'être dans ce ventre mou. C'est quand vous perdez 12 points au pied contre une équipe qui est dans le haut du classement, c'est impardonnable.
Avant l'émission, j'avais lu vos deux ou trois dernières vies des clubs dans la Charente libre, et c'est vrai que c'est vraiment l'impression que j'avais. Ces matchs contre les équipes de tableau, vous étiez pas loin de faire l'exploit ou de remporter la victoire, et finalement, notamment sur les secondes périodes, ça tournait toujours en faveur de votre adversaire.
On a eu quand même aussi quelques joueurs cadres qui ont été sévèrement blessé, je dirais. Donc ça a pesé aussi dans la balance. On a pas mal de nouveaux jeunes rugbyman. Donc sur des matchs un petit peu âpres, c'est compliqué de tenir la dragée pendant 80 minutes.
Pour faire la saison, tu disposais d'un groupe de combien de joueurs environ?
Une cinquantaine de joueurs, ce qui est quand même largement honorable pour notre petite équipe.
Ah oui, pour une seule équipe en plus.
Ouais, sachant qu'on a quand même quelques militaires.
On a 52 seniors.
Oui, et donc avec des militaires qui sont parfois là et qui sont parfois pas là, du coup.
Oui, après ça c'est le jeu.
Et souvent c'est les meilleurs joueurs de l'équipe, en tout cas en football c'est comme ça.
Bah, c'est vrai que on peut pas criminer dire que c'est les meilleurs. Ou, ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai que sportivement, ils sont
les joueurs qu'importe parce que physiquement, ils s'en prennent toute l'année. Hein.
Quand on a comme ça 50 joueurs, finalement, c'est beaucoup dans une équipe. Donc 15 joueurs sur le terrain, je crois 7 sur le banc. Donc on est à 22 ou 24. Ça doit être compliqué parfois de faire des choix un peu de se dire on a quand même beaucoup de joueurs qui vont pas jouer ce week-end.
Ben malheureusement, c'est que il y a eu 2 ou 3 matchs à la maison où on a dû faire des choix.
Ouais.
Et d'autres où quand vous partez à Loudun au match retour, vous êtes que 19.
Oui.
Donc vous voyez.
Les kilomètres du coup ça motive moins de tout de suite.
Et puis le fait d'être dans le ventre mou aussi, je pense que certains lâchent un petit peu la compétition quoi.
Parce qu'on rappelle donc les modalités pour les montées phase finale, ça se passe comment dans votre poule de région 3
cette année, seuls les 2 premiers montent. Donc actuellement, c'est Buffet et Châtellerault.
Il y a combien de descentes, Christian ?
Aucune descente.
Non, il n'y a pas de descente.
Il n'y a que pas de descente, puisqu'on
est au plus petit niveau, le plus petit niveau.
Hein. Oui, donc au final, quand on est loin des 2 premiers, finalement, qu'on termine 4e ou qu'on termine 8e, c'est presque pareil. Quoi.
Bah, c'est pareil.
Ouais, c'est...
Pour nous, en Régional 3, oui, c'est la même chose.
Ouais. Ouais. Ben, vous savez, l'année dernière, on s'est fait avoir 1 point pour accéder aux phases finales. Ça nous avait mis un bon coup derrière la tête. Donc cette année, comme ça, on n'aura pas ce coup de massue qui viendra nous plomber, puisque on est au milieu. Donc voilà, à part travailler, on n'a rien à se reprocher. Quoi.
Pour en revenir sur votre dernier championnat, donc c'était déplacement à Ruffec contre une équipe qui est dans les 2 premiers. Vous perdez 22-5, mais en lisant l'article sur la vie des clubs, qui d'ailleurs était super bien écrit, c'était sympa à lire, on a l'impression que c'est un match qui vous échappe en deuxième mi-temps.
C'est ça, oui, parce qu'il y avait 8-5 à la mi-temps. Et puis, on avait vraiment montré du beau jeu. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe en deuxième mi-temps. On tombe dans leur jeu à eux et puis
on marque
2 essais de raccro, on va dire, et puis ça se passe comme ça.
C'était un match engagé, ça a été un beau match. Je pense que les spectateurs ont pris plaisir à voir ce genre de match. Nous, de notre part, le gros problème qu'on a, c'est qu'on s'est fait, dès qu'on arrivait dans les 22 mètres, on s'est fait pénaliser à chaque voyage et forcément. Ben voilà, ça pardonne pas.
Donc, oui, forcément, quand on est pénalisé, c'est compliqué d'aller marquer des points.
Ouais, et puis je pense que cette année encore, on n'a pas eu énormément de chance avec l'arbitrage. On l'a jamais eu bien avec nous, donc ça. Alors je dis pas que Ruffec a eu l'arbitrage avec lui, mais je pense qu'il y a des décisions défavorables au mauvais moment quand vous arrivez dans la zone où vous devez marquer et que vous prenez une pénalité contre vous. Alors que vous avez le ballon en main, c'est compliqué.
Oui, oui. Et puis c'est vrai que ça casse aussi tous les efforts.
Ça casse le rythme, ça casse les efforts effectivement.
Ouais, ça casse les efforts finalement pour vous rapprocher de cette ligne d'en but adverse quoi.
Bon, après Ruffec, sur le papier, était bien meilleur que nous. Ça, y a pas photo. Ils ont été beaucoup plus réguliers. Ils descendent de R2 où ils ont fait les finales l'année dernière. Donc, la logique a été respectée. Même si on voulait faire l'exploit, malheureusement, on l'a pas créé.
Par rapport à l'arbitrage, c'est des arbitres qui sont désignés à chaque match. Enfin, ou est-ce que finalement c'est parfois il y a de l'arbitrage
c'est des arbitres désignés à chaque match. On a
ah pas oui, d'accord. Donc ça va. C'est
donc voilà, c'est à peu près convenable par rapport à ça. Mais bon, après, on a les arbitres aussi qu'on mérite en Régional 3.
Il y a une question de niveau, peut-être. C'est ça.
Ouais, vous savez, quand vous jouez des matchs contre Ruffec, Saint-Georges-les-Balergeaux, et qu'il y a un jeune arbitre qui vient et qui connaît pas les vices du rugby, c'est compliqué derrière à arbitrer parce que il y a quand même des coups, ça reste du rugby. Et des joueurs qui ont un petit peu plus d'expérience que les nôtres, ça fait la différence sur certaines occasions.
Vous parliez de spectacle, messieurs, tout à l'heure. Est-ce que vous avez un public fidèle? Et si oui, ils se montent à combien à peu près à chaque réception?
Bon, il faut compter 150-200 personnes.
Ah ouais, c'est quand même pas mal.
Ah oui, oui, là-dessus, on a un public qui nous suit, qui est là tous les dimanches. Et je les en remercie d'ailleurs, parce que c'est un petit peu grâce à eux si on peut vivre à peu près bien. Et c'est motivant.
Et d'ailleurs, dans cette poule, donc il y a plusieurs Charentais. Donc il y a Ruffec, il y a vous, il y avait l'Union Barbezieux, donc l'équipe réserve. Il y avait Roumazières, il y avait Confolens et Montbron. Dans toutes ces équipes-là, est-ce qu'il y a un derby est-ce que pour vous, il y a le derby ultime ou finalement d'affronter chaque équipe, il y a pas de d'échelle de valeur entre guillemets.
Si, il y a les petits derbies quand même.
On a toujours le derby La Rochefoucauld-Montbron, il y a 15 km d'écart, donc c'est toujours.
Malheureusement cette année, qui vient pas plus se faire.
Ouais.
Mais Confolens, c'est pareil maintenant, ça commence à être une équipe qu'on commence à rencontrer régulièrement et avec qui les scores sont serrés, donc forcément, il y a toujours ce petit derby. Chabanais, c'est pareil, c'est une équipe qu'on rencontre depuis longtemps. Et puis, les gens répondent à ça. Enfin, le public répond à ça. De toute façon, on le voit nettement. Quand c'est des.
Oui, vous voyez vraiment une différence de spectateurs lorsqu'il y a ces matchs-là.
Oui, oui.
Surtout plus de visiteurs.
Ruffec cette année chez nous à la maison, il y avait vraiment du monde. C'était.
D'accord. Vos poules, elles changent régulièrement ou au final, par rapport à l'an dernier, c'est à peu près la même poule.
Ça a changé. Oui, on a récupéré Châtellerault qui était pas dans notre poule. Ruffec, forcément. Saint-Georges et Balerbejeau. Loudun, ils y étaient déjà. Confolens, ils y étaient aussi. Non, même pas, ils y étaient pas.
Si, on les avait dans le même.
Ouais, non, ils ont
on les avait en Challenge.
On les a joués dans les finales.
C'était en Challenge.
Donc, Poitiers, Roumazières, on les avait pas. Lyon, Barbezieux, Jonzac, non plus, puisque c'était une nouvelle équipe. Et Montbron, oui.
Ah oui, donc vous ça voyez, fait quand ça même plus de la moitié des équipes.
Pas mal les rôles.
Ça fait plus de la moitié des équipes qui finalement sont nouvelles.
Ouais. Ouais, bon après on a l'habitude de les jouer, hein, ça reste toujours un cercle fermé, à part Ruffec qui est descendu, Châtellerault, on avait déjà joué, Saint-Georges-les-Balergeaux, etc. C'est des équipes qu'on a l'habitude. Le bus connaît la route.
Bah, surtout qu'en plus pour aller à Loudun, à Châtellerault, enfin je crois que c'est Châtellerault Pleumartin.
Ouais, tout à fait, c'est ça.
J'avoue qu'en rugby, Pleumartin me parle plus que Châtellerault, parce que Châtellerault, c'est plus le foot pour moi. Ça fait quand même des kilomètres à faire, donc le bus, il connaît la route, mais il doit aussi la tenir, la route.
Oui, tout à fait. Après, bon, c'est des bonnes destinations, parce qu'après derrière, ça permet de recréer un petit peu du lien tous ensemble, avec un petit apéritif, vous voyez, en retour du bus. C'est ce qui fait que les gros déplacements créent aussi une certaine ferveur au rugby.
Oui, c'est vrai que les voyages forment la jeunesse au final.
Ouais, et déforment les valises aussi. Ouais.
Vous écoutez Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez bien Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h, 20h30, où on parle de sport régional. Nous recevons l'Union de la Rochefoucauld avec Brice Coulombex et Christian Lamazerolle qui répondent aux questions du feu nourri de Christian. C'est à toi.
Eh oui, quand un Christian rencontre un autre Christian, ça parle de rugby, même si c'est pas mon sport numéro un. Et ce qui est bien, c'est que finalement, même dans cette saison où sportivement, les deux premières places sont trop loin, derrière, potentiellement, il peut y avoir d'autres matchs.
Non, on s'est inscrit dans le challenge régional.
Est-ce que tu peux un peu nous développer ce challenge, en quoi il consiste, combien de matchs et à peu près contre qui, grosso modo?
Alors malheureusement, contre qui, on ne sait pas. L'année dernière, on avait fait ce challenge où on avait perdu contre Confolens en huitième de finale, il me semble. Normalement, ce challenge permet de rencontrer des équipes que l'on ne rencontre pas d'habitude. Donc on aimerait bien rencontrer des équipes du Périgord-Agenais, par exemple.
D'accord, donc c'est c'est des équipes qui sont dans d'autres poules de R3?
Ouais, absolument, c'est ça.
Okay.
Mais dans la Ligue.
Mais dans la Ligue,
oui. Dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
Ah, ça veut dire que potentiellement, on peut y avoir des beaux voyages encore.
Oui. Alors par contre, ça se joue en terrain neutre, hein, il me semble. Les modalités sont toujours à voir, c'est compliqué.
C'est sur élimination directe, c'est en gros il y a un match, le gagnant continue, le perdant arrête là.
Non, normalement il devrait y avoir.
Il y a une phase, à mon avis, ça va être des poules de 5. Mais d'accord. C'est sur un seul match, c'est pas en aller-retour. Donc
ça fait au moins 4 matchs à jouer, quoi qu'il arrive.
Et après les finales.
Et après les phases finales.
C'est ce qu'on avait fait l'année dernière, on était sorti premier des finales. Et le premier, malheureusement, c'était le deuxième qui réceptionnait chez lui. Bon, c'est ce qu'on n'a pas compris, mais enfin, c'est pas grave.
Ah oui.
Et donc, du coup, on a été joué à Confolens. Et on a perdu à Confolens.
Quand on est premier, on veut recevoir, c'est l'avantage d'avoir fini premier.
Ouais, pas l'année dernière, en tout cas, malheureusement.
Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que la saison, du coup, ne se terminera pas, fin mars, début avril, parce que c'est vrai que derrière, si ça reprend en septembre, ça fait quand même...
Novembre, normalement ça reprend en novembre, parce que n'oubliez pas qu'on a la Coupe du Monde. Alors nous, on jouera pas, c'est sûr.
Mais vous allez la jouer devant la télé ou peut-être dans les stades?
Oui, ouais, on va la jouer devant la télé, près de la buvette.
Eh ben, c'est ce qu'il faut.
Exactement.
Et puis là, du coup, c'est une question spécifique au coach. Quand on a des soucis de buteur et que les points sont compliqués à aller chercher au pied, est-ce qu'on s'adapte en conséquence? Et si oui, comment?
On joue beaucoup à la main. Malheureusement, c'est qu'on est obligé de jouer beaucoup à la main. On trouve mal les touches. On prend pas ou peu les points au pied. Donc, à un moment donné, on est obligé de faire le forcing avec les gros de devant. Et c'est peut-être un petit peu pour ça aussi qu'on a pas mal de blessés devant, parce que on les met à rude épreuve toute la saison.
Oui. C'est peut-être aussi peut-être une des conséquences du fait que soit plus compliqué en deuxième mi-temps. Peut-être que les gros sont fatigués quand on arrive à l'heure de jeu ou un peu plus après.
Et je pense qu'il y a ça, et je pense qu'aussi il y a aussi une frustration générale. Vous savez, quand vous dominez et que vous devez prendre 3 points, vous êtes en face des poteaux, oui, et que vous en perdez 3, 6, 9, ben, malheureusement, à un moment donné, le moral décline. Et quand vous au rugby, si vous avez le moral dans les chaussettes, ben, c'est compliqué pour dominer votre adversaire.
Oui, au final, c'est frustrant de que ce soit pas concrétisé au tableau d'affichage.
Absolument.
Plus de 50 joueurs, et puis j'ai l'impression que du coup, qu'il y a des éléments qui sont hyper hétéroclites en termes d'expérience de rugby. Certains débutaient le rugby, comme tu nous l'avais dit précédemment, et puis il y a d'autres personnes plus expérimentées, comme Lucho.
Comment j'avais croisé on a des joueurs cadres qui viennent de niveau supérieur, qui nous ont apporté depuis 2 ans maintenant une bonne dynamique. On essaye de former nos jeunes chevaliers, je dirais, à la pratique du rugby. Ben, on a eu aussi quelques jeunes là blessés. Bon, je pense que à un moment donné, j'espère que l'année prochaine ça va payer. De toute manière, à un moment donné, ça va payer. J'en suis persuadé. Tout le monde fait l'effort. Les présidents, l'école de rugby, tout le monde fait l'effort. Donc à un moment donné, l'équipe Fagnon ça va grandir aussi fatalement.
Ouais, et puis ces derniers matchs de la saison, c'est peut-être aussi pour préparer entre guillemets la saison prochaine.
Oh ben là, on est dans l'optique de préparer la saison prochaine.
Ouais,
ça fait un petit moment là qu'on est plus sur la saison prochaine que sur l'année en cours. Hein.
D'ailleurs, comment on s'organise quand on a un club de Régional 3 pour le recrutement de joueurs?
Ben déjà, on essaye de garder un maximum de joueurs qu'on a dans notre effectif, de garder surtout les cadres et de pas les laisser partir.
Oui, c'est vrai que c'est le premier recrutement déjà.
Ouais. Et après, de redonner une dynamique par rapport à ce club. C'est-à-dire que par exemple là, le 11 juin, on fait notre cochon grillé, on va essayer de rameuter un maximum de monde et pourquoi pas refaire venir les nouveaux pour leur faire voir un petit peu nos valeurs du club.
Et puis on essaye aussi d'être présent pas mal sur les réseaux sociaux. On a Geoffrey justement qui fait les articles sur la vie des clubs.
Oui, qui sont très sympas à lire, je le redis. Donc ouais, bravo à lui.
Qui ouais, s'occupe aussi de tout ce qui est Internet et tout. Et donc on essaye d'avoir de la visibilité au niveau dans le coin et ça paye, parce que justement l'an dernier, bah moi à ma grande surprise, quand j'ai vu 6-7 novices, des gens qui n'avaient jamais joué au rugby, venir chez nous dans notre club pour toucher le ballon, quoi. Et ben ça fait vraiment plaisir. Oui, et donc j'ai un coach, donc Cédric Krim, qui a pris sur lui et qui faisait des entraînements le lundi soir spécifiques aux débutants, justement pour pouvoir les intégrer au plus vite dans notre équipe.
Et donc c'est des joueurs qui avaient jamais joué au rugby mais qui connaissaient quand même les règles, enfin qui suivaient ça à la télé par exemple.
Ben voilà, c'est ça, c'est des joueurs qui ont voulu essayer le rugby et
on a réussi à fédérer ça.
Voilà, on a eu ça, on a donc des joueurs qui jouaient à plus haut niveau qui sont venus aussi là, comme Thomas Bouche, comme Félicien.
Ah oui, Thomas Bouche, ouais.
Voilà, c'est
Félicien Goldebeuf.
Ouais.
Ah, il y a beaucoup d'anciens couronnés dans ce cas-là.
Oui, de toute façon, voilà, Lucho est venu forcément.
Oui,
ça fait une belle vitrine dans le club, quoi.
Ouais. Non, c'est vrai qu'on est un petit peu triste, c'est qu'on a de super joueurs et malheureusement les résultats sont pas faits ressentir. Et c'est là où je vous dis où faut garder le cap, parce que faut arriver à pas les dégoûter, ces joueurs, et qu'on arrive un maximum à les garder, quoi.
Et je reviens sur les nouveaux donc qui débutaient le rugby. Quand c'est comme ça, du coup, il faut que les coachs ou le président aient l'œil, dans le sens où du coup, j'imagine que vous voyez un peu leurs qualités, leurs défauts, leurs gabarits. Donc vous voyez rapidement où ils peuvent jouer en termes de poste.
Ah bah, de toute façon, ils sont pas rentrés sur le terrain tout de suite, hein. Donc
oui, j'imagine.
ils ont fait beaucoup d'entraînement. Ils sont même pas tous rentrés, je pense.
Non. Mais après, on en a quelques-uns qui ont joué même titulaire. Hein. Là, on en a un. Malheureusement, il s'est blessé à l'épaule. Il avait vraiment pris le pas. C'était vraiment joli à voir. Hein. Donc non, sur ces nouvelles recrues, ils sont jeunes, ils ont entre 21 et 25 ans, ça va forcément progresser. Ouais, à un moment donné, ça va payer. Mm.
D'ailleurs, par rapport à l'âge moyen de votre groupe là, d'une cinquantaine de joueurs, bon, j'imagine qu'il y a des anciens et des jeunes, mais si on faisait une médiane, ça donnerait quoi?
Bon, je dirais 28 à 30 ans.
Hein. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quelques jeunes, mais il y a quand même plus d'anciens que de jeunes, entre guillemets.
On a plus d'anciens que de jeunes. Alors, il faut savoir une chose à La Rochefoucauld, et on n'en est pas peu fiers, c'est qu'il y a très peu d'équipes de U19 en Charente, et on est un des clubs qui a une équipe de U19. Donc, potentiellement, ces jeunes, puisqu'ils portent fièrement notre maillot depuis les moins de 8 ans, vont rester dans notre club. Et ça nous fera, c'est notre futur de demain.
Oui, ça sera votre. On disait que votre premier recrutement c'était de garder vos joueurs, et puis votre deuxième c'est de promulguer ces jeunes-là qui vont bientôt jouer en senior.
Ben vous voyez par exemple à Ruffec, on a fait le choix de faire monter un U19, le petit Enzo, à la place d'un joueur cadre, pour lui donner sa première chance en tant que senior sur un match compliqué. Et je pense qu'il a été fier, et nous aussi, on a protégé ce jeune, et il a fait le job, il a été très bien.
D'accord. Voilà. Et il joue quel poste?
Pilier.
D'accord. En plus, c'est pas facile de.
Ouais, mais.
Surtout contre Ruffec.
Un beau gabarit, c'est un jeune qui promet. On a de talentueux jeunes en U19. Et de temps en temps, on arrive à faire des oppositions avec eux pour les entraîner, nous aussi. Et je vous assure que ils sont dynamiques et ils nous laissent pas sans répit. Hein.
Vous écoutez Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez bien Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h-20h30. Où on parle de sport régional. Nous recevons l'Union de La Rochefoucauld avec Brice Coulombex et Christian Lamazerolle qui répondent aux questions du feu nourri de Christian. C'est à toi.
Est-ce qu'il y a des entraînements du coup en commun entre l'équipe première et puis les CU19?
Absolument. Alors le problème de CU19, c'est qu'ils sont lycéens. Enfin, lycéens, ils font des études.
Oui, donc c'est compliqué pour eux de venir la semaine?
La semaine, c'est compliqué. On en a certains qui sont encore dans les coins, qui viennent le mercredi s'entraîner avec les seniors. Et le vendredi, donc c'est d'un côté les U19, de l'autre côté les seniors. Et comme je disais, de temps en temps, il y a des oppositions et des mouvements généraux.
Si je comprends bien, à La Rochefoucauld, notamment chez les seniors, donc entraînement mercredi et vendredi.
Absolument. De 19h30 à 21h30.
Et on parlait de parfois tout à l'heure des kilomètres qui pouvaient en décourager certains. Est-ce que le froid l'hiver, est-ce que vous voyez plus de monde à l'entraînement lorsqu'il fait bon ou lorsque
vous savez, au rugby il y a une date butoir, c'est le changement d'heure. Dès que le changement d'heure arrive, il y a l'effectif qui diminue d'un tiers à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'il fait froid, parce qu'il n'y a plus de soleil, parce qu'il fait nuit. Et c'est, enfin, je sais pas au foot, vous, comment vous le percevez, mais nous, chez nous, c'est...
Ah bah forcément, déjà dans la vie de tous les jours, de partir chez soi le matin, il fait nuit, et de revenir chez soi le soir, il fait nuit, c'est pas très encourageant, pas très motivant.
Ouais. Donc, au changement d'heure. Donc là, on va rechanger d'heure ce week-end. Bon, c'est dommage, la saison est quasiment finie, mais on va Non, mais ouais, c'est compliqué de motiver tout le monde. Hein.
Et grosso modo, donc le championnat, donc il se termine début avril. Il commence quand?
Troisième week-end de septembre, il me semble.
Donc par rapport à ça, comment on s'organise l'été pour faire la petite prépa physique? Est-ce que vous avez un petit stage de cohésion ou une journée cohésion? Enfin, comment ça se passe la préparation?
On a fait pas mal de stages de cohésion. Au niveau d'un plan d'eau, on est parti tous une nuit, après on a fait une grande marche, on a fait pas mal de choses ensemble. Après on commence à peu près toujours vers le troisième samedi d'août, entre le 2 et le troisième samedi d'août, et là on attaque pas mal de courses, trois fois par semaine, pendant un petit mois, donc lundi, mercredi, vendredi, jusque arriver au deuxième ou troisième match où là on reprend que deux entraînements en semaine et normalement les joueurs commencent à être bien affûtés.
Oui, c'est histoire de monter en puissance finalement au fur et à mesure des matchs.
Ouais, absolument. En plus, on essaye de mettre au programme un à deux matchs amicaux. Donc voilà.
Beaucoup de charentais dans votre poule, donc j'imagine que les matchs amicaux sont contre des équipes qui sont pas forcément très loin. Comment vous entendez vous entre clubs de rugby charentais qui jouaient tous soit R3 soit R2, enfin est-ce que il y a une bonne entente ou finalement vous êtes un peu concurrent pour le recrutement parce que j'imagine que le vivier de joueurs est pas forcément très très élargi en Charente.
Bah, le vivier de joueurs est pas très élargi non, mais après il y a toujours une bonne entente. Par exemple, on a fait un match amical contre la Couronne au début de saison, ça s'est super bien passé. Après, vous savez, quand vous avez des joueurs qui jouent en PH, le niveau de PH et de Régional 3 sont pas du tout les mêmes. Hein. Oui. Après, il y a pas tant de zones concurrentielles que ça. Et puis souvent, les joueurs qui ont porté le maillot restent où ils sont.
Oui, c'est vrai qu'au rugby, il y a moins de... Un joueur fait plus facilement toute sa carrière dans le même club au rugby que dans le foot, par exemple.
Donc, c'est pour ça les clubs travaillent beaucoup par rapport à ça, pour garder ces jeunes. L'école de rugby, on leur donne goût au maillot depuis jamais.
Et en plus, nous, à vos niveaux, là, R1, R2, R3, nous, on est vraiment des clubs amateurs tous. Hein. Enfin, on est des clubs charentais. Donc, l'intérêt d'un joueur d'aller ailleurs dans un autre club de même niveau, enfin, il n'aura rien à gagner de spécial, quoi. Donc, mais bien souvent, oui, il reste au club.
Oui, ouais, mis à part potentiellement rejoindre des copains ou des...
Exactement. C'est tout.
Sûr, mais d'ailleurs, l'inverse est vrai pour vous. Il peut aussi y avoir des joueurs qui vont rejoindre parce que, pour jouer avec des amis ou parce que il y a le bouche à oreille.
C'est ce qui s'est passé avec les joueurs qui arrivent de la Poix.
Ouais, ouais. R1, R2, R3, j'imagine que le niveau de... Est-ce qu'il y a un gouffre entre les trois divisions? Enfin, est-ce qu'il y a une grosse marche, par exemple, entre la R2 et la R3?
Je pense que oui.
Ouais.
Je pense que oui. Mais, disons que R3, R2, peut-être pas trop, mais, s'il y a des marches quand même, parce que même dans une même poule régionale, il y a des différences. Donc, je pense qu'il doit y avoir une différence quand même.
Ouais. Et tiens, d'ailleurs,
il y a trop longtemps qu'on n'a pas joué au niveau de R2 pour savoir.
Vous écoutez Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez bien Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h, 20h30, où on parle de sport régional. Nous recevons l'Union de la Rochefoucauld avec Brice Coulombex et Christian Lamazerolle qui répondent aux questions du feu nourri de Christian. C'est à toi.
Une colle, combien il y a de poules en R3 en Nouvelle-Aquitaine?
Une dizaine.
Ah oui, donc ça fait quand même du coup, si vous êtes 10 équipes par poule, ça fait une centaine de clubs en R3 dans la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, c'est grand la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, tout à fait. C'est...
La redistribution.
C'est grand, il y a des zones de rugby quand même, tout ce qui est Landes, Pays Basque.
Ouais. Pour vous, le fait que ce soit passé en Nouvelle-Aquitaine, ça a changé des choses. Est-ce que vous avez pu découvrir d'autres rugby ou des clubs que vous n'aviez jamais affronté apparemment?
Nous, ça n'a rien changé.
D'accord.
Ça nous a pas changé grand chose, sauf qu'on est passé de première division à R3 et le niveau, je pense qu'il est de plus en plus dur.
Bah, c'est bien d'un côté, ça oblige à progresser soi-même.
Ouais, non, mais c'est sûr. Et puis, comme on vous disait tout à l'heure, c'est que, vous voyez, on a entre 150 et 200 personnes qui nous suivent régulièrement au stade de la Rochefoucauld. Je pense que c'est le niveau rugbystique est pas mal. Ça joue un petit peu. C'est joli comme rugby, c'est
bon. Moi, pour avoir joué dans des temps immémoriaux, je me rappelle de l'époque où on jouait en 3e, 4e série. Souvent, l'entraînement, il se faisait au bar. Et les autres équipes, c'était pareil. C'était vraiment un autre rugby, beaucoup plus lent, beaucoup plus. C'était pas du tout la même chose. Et là, je me perçois maintenant, même en étant au plus bas niveau du rugby, je m'aperçois que si mes gars ils s'entraînent pas, ça va vite faire de la casse, ils vont vite ennuyer le public. Enfin, il faut vraiment, même au plus bas niveau du rugby, il faut vraiment avoir un sérieux un sérieux à l'entraînement, un sérieux peu importe où. Quoi. C'est le niveau a vraiment augmenté. On voit vraiment des beaux matchs. Même en régional 3, on voit des beaux matchs. On voit des beaux plaquages, on voit des beaux essais, des belles passes. On voit vraiment du beau rugby.
Et puis il faut pas s'endormir, sinon l'addition ça lourdit vite.
Ça va vite, ça va vite.
C'est bien pour ça que on a eu des problèmes cette année. Vous voyez, au pied. Alors, au pied, on dit, bon, bah, c'est les professionnels, mais même à un niveau en régional 3, eh ben, on a pêché à cause de notre pied.
Ouais, les équipes du tableau, elles ont des buteurs fiables, entre guillemets.
Ben, meilleurs que les nôtres, en tout cas.
Ouais, ouais. Vous parlez du coup des U19, moi, il y a aussi de l'école de rugby, donc il faudrait qu'on parle. Alors, déjà, combien d'enfants et puis à peu près quelle catégorie d'âge sont représentées?
Alors, cette année, on a augmenté un tout petit peu nos effectifs. On a...
On a 8 M6, 14 M8. Alors ça, c'est en masculin. On a 12 M10, masculin aussi. On a 12 M14. On a 2 M16. Par contre, ça, c'est la catégorie où on pêche un peu. Hein. Et 18 M19. D'accord. Et en filles, par contre, on n'est vraiment pas très riche. On a 2 féminines en moins de 15 et 2 féminines en moins de 8.
D'accord.
Sachant que nos 2 féminines en moins de 15 sont sélectionnées pour le match le week-end prochain dans les côtes landaises avec la sélection Charente.
C'est sympa, ça.
Ouais, c'est sympa.
Bah oui, il y a 2 filles de la Rochefoucauld, il doit y avoir 2 filles du SA15 et après le reste, bah, c'est.
Oui, c'est ce que je vois, là. C'est ce que je vois du coup sur votre page Facebook qui d'ailleurs est super bien et d'ailleurs, j'encourage tous les gens à venir vous voir sur Facebook, hein. Donc UALR Rugby, il y a vraiment beaucoup d'infos. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de Coronaises qui complètent cette équipe charente.
Ouais.
Et vos filles, comment vous faites pour les faire jouer du fait qu'elles soient peu nombreuses?
Là, je joue, c'est mixte, donc.
Ah oui, d'accord.
Je joue avec les garçons.
D'accord. Et ça leur plaît?
Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est deux. Ben vous voyez, on était en train de faire une manifestation à La Rochefoucauld. La manifestation des associations et ces deux filles on les a recrutées lors de cette manifestation. Elle est venue me voir, elle me dit est-ce que c'est vous qui faites du rugby? Je dis oui, pourquoi? Ben je serais intéressé pour jouer. Ben, j'ai dit quel âge tu as? Elle m'a dit j'ai 14 ans. Ben, j'ai dit c'est avec les moins de 15, viens mardi, l'entraînement est le mardi soir à 18h. Elle est venue et
elle est jamais repartie.
Elle a déchiré et elle reste avec nous. Et maintenant, elle a même amené sa sœur.
Oui, c'est ce que je vois parce que les deux filles ont le même nom de famille. D'ailleurs, on va les citer. Donc, il y a Océane Ogbugué et donc Talia Ogbugué. Donc, c'est
Osberger.
Ouais, Osberger. Du coup, c'est les deux sœurs de la Rochefoucauld qui sont donc en équipe charente pour ce tournoi de l'amitié.
Exactement. Et on est très fiers de ces deux petites.
Ouais. Est-ce que potentiellement il y a quelqu'un du club qui va aller les voir, les chapeauter un peu, les surveiller?
Alors,
et encourager aussi.
Il n'y aura malheureusement personne parce qu'en même temps on a un match nous des moins de 14, donc normalement on pourra pas être sur les deux fronts. Mais on suivra avec intérêt parce qu'on a forcément des amis qui y sont et les parents, et on aura les photos à mettre sur notre page Facebook pour faire briller un petit peu nos filles.
Bien sûr, et puis en espérant que cette sélection m'appelle l'autre.
Oui, oui, oui. Oh, ben, c'est pas la première fois qu'elles sont sélectionnées. On D'accord. a aussi deux moins de 14 qui sont sélectionnés en équipe Charente et 3 moins de 13 en équipe Charente aussi.
Et puis en plus, ça, ce tournoi-là, il a l'air super intéressant parce que en voyant l'affiche, c'est vraiment tous les départements de Nouvelle-Aquitaine qui sont représentés pratiquement.
Ouais, c'est
tout le sud en tout cas.
L'année dernière, il avait déjà été fait. On n'avait pas de filles qui représentaient le club de La Rochefoucauld. J'en avais eu des échos. Il paraît que c'est super.
Bon, et puis avec un peu de chance, Océane et Talia ont des copines, et donc l'an prochain, il y aura des copines qui vont les rejoindre sous vos couleurs.
En espérant, effectivement.
Et par rapport donc à vos jeunes, donc Christian a fait le détail des forces en présence. Ça donne quoi en termes d'équipe? Vous avez quelle catégorie de représentés?
Ah ben, en termes d'équipe, on a deux équipes en moins de 8 et une équipe moins de 10, moins de 12 et moins de 14. On a dans chaque catégorie, part les moins de 16, malheureusement, on n'a pas d'équipe. On est en entente avec la couronne.
Oui.
Sinon, toutes les équipes, même les moins de 6, c'est-à-dire moins de 6, c'est du petit, du tout petit, de moins de 4 ans jusqu'à 5 ans et demi, où on a du monde. Et je tenais même à remercier Mariana Robin et Elodie Saez, nos deux
éducatrices Moon6 qui ont fait un énorme job cette année. Parce que vous savez, là, on parle plus de motricité que de rugby. Et franchement, je suis très fier de ce qu'elles ont fait parce que elles nous font un super, super job.
Ah bah d'ailleurs, on peut même faire le tour des éducateurs globaux, hein, qui coachent toutes ces équipes, hein, si vous voulez.
Les éducateurs, j'ai en moins de 10, Elodie Larapidi et son mari Anthony qui s'en occupent, qui font pareil un boulot remarquable. C'est deux militaires, donc quand il y en a un qui est parti en mission, l'autre prend le relais, etc. Vous voyez.
D'accord.
Donc heureusement.
C'est les tours de garde du coup.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Heureusement que je les ai. En moins de 14, j'ai quand même... Alors non, j'ai oublié les moins de 12. En moins de 12, j'ai Pierre Bonin et Alexandre Calarme qui font, pareil, super job avec mes petits U12 parce qu'on a quand même une belle équipe. Là, ils vont au final à Jarnac pour représenter notre club. Et moins de 14, j'ai trois éducateurs, Romain Teto, Flo Bernardo et Antonio Cuvilla, notre préparateur physique, qui, pareil, fait une bonne émulation sur nos jeunes. Même si on n'a qu'une équipe à 10, parce que ça peut jouer à 15 ou à 10, malheureusement, le nombre n'est pas assez... l'effectif n'est pas assez rempli pour qu'on joue à 15. On n'a que 12 gamins, mais ils font, pareil, un gros travail pour dans la continuité, ce qui est fait au départ.
Et puis qui dit équipe de jeunes dit forcément les tournois en fin de saison. Est-ce que vos équipes ont déjà des tournois en vue, des inscriptions à venir? Et puis quid du Guimari pour votre club?
Eh ben comme d'habitude, on va faire le Guimari à Angoulême. On s'inscrit aussi au Berland, c'est-à-dire à Cognac.
Oui.
Le tournoi, et normalement on devrait faire un déplacement un petit peu plus loin avec toute l'école de rugby. Là, pour l'instant, là, on est en pourparlers. On va voir en fonction des budgets parce que ça demande quand même pas mal d'organisation aussi.
Bon, il va falloir vendre quelques crêpes sur le dernier match à domicile.
Oui, effectivement, ce serait pas mal qu'on vende quelques crêpes. Mais je sais pas s'ils mangent même beaucoup de crêpes en cette saison.
Ah ben, effectivement, oui. Et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de vous entendre sur le Guimari, sachant qu'on devrait recevoir bientôt sur Attitude Babar, qui chapeaute un peu ce tournoi depuis plusieurs années. Pour vous, le Guimari, ça représente quoi? Est-ce que vous l'avez joué en tant que joueur déjà?
Non, pas du tout. Non, je l'ai pas joué en tant que joueur, mais effectivement, c'est une institution du Haut-Charente. Il y a pas mal d'équipes, de belles équipes qui viennent. Ça permet de faire jouer des moins de 12 ans sur le stade de Chanzy. Donc voilà, c'est un beau tournoi pour les enfants.
Oui, et puis forcément, c'est un tournoi où on a envie d'y être.
Les enfants ont envie de performer dans ce tournoi. Quand vous affrontez une équipe comme Pau, Brive, etc., forcément, ça donne envie aux enfants.
C'est vrai que ça a ce côté magique de... Moi, je vois aussi par rapport au tournoi U13 feu de la CFC où on avait des soyaux contre Girondin Bordeaux. Enfin, c'est vrai que d'avoir ne serait-ce que le nom de l'adversaire, ça motive.
Ah ben ça les motive, ça leur fait écarquiller les yeux et puis quand ils voient leur derrière, parce que ça ne reste que des enfants, quand ils voient leur niveau par rapport aux autres, ils voient qu'ils sont pas si ridicules que ça.
Oui, et puis en plus ça leur fait des belles rencontres avec leurs adversaires d'un jour.
Exactement.
C'est ça pour moi le rugby. Alors bien sûr au niveau amateur, mais surtout à cet âge-là, c'est avant tout le plaisir. La notion de plaisir, elle est hyper importante.
Ah ben de toute manière, nous on prend pas du tout. Enfin notre philosophie n'est pas forcément les résultats par rapport aux équipes de l'école de rugby, mais surtout de valeurs transmises comme le respect, la solidarité et la combativité.
Et par rapport à Christian, ça fait combien de temps, Christian, que tu es du coup président du club?
Ben là maintenant, ça fait la troisième année.
Ouais. La dynamique est bien remontée. Quel regard tu tires un peu sur ces trois premières saisons?
Moi personnellement, je suis satisfait de ce qui se passe en trois saisons là, parce que j'ai vu le club progresser, j'ai vu une équipe de dirigeants de plus en plus motivée, donc voilà, forcément, parce que c'est vrai qu'on est, en fait, j'ai pris la présidence au moment du Covid. Notre ancien président Thierry Dupuis, que je salue d'ailleurs, est parti de la région, il est parti sur Rochefort, donc on s'est retrouvé un petit peu ben,
le bec dans l'eau,
on savait pas, ben, personne ne voulait la place et tout, donc on a commencé par une coprésidence à 5 coprésidents, parce que personne se voyait ça c'est une charge de travail énorme, donc ça nous faisait un petit peu peur à tous quoi. Et donc on est parti avec 5 coprésidents, donc ça a duré 2-3 mois.
Et un peu comme dans les films d'horreur, au final, on en a perdu un.
Ça devenait un bazar infâme, quoi. Pour prendre des décisions et tout, c'était vraiment plus possible.
Ouais, il a fallu structurer ça, ouais.
Donc, voilà, j'ai pris sur moi et puis j'ai dit, bon, allez, ok, je prends la présidence du club, mais par contre, je voulais une condition, c'est quand même de garder un co-président qui est Brice et qui, lui, s'occupe de l'école de rugby. Parce que l'école de rugby, c'est vraiment une part de travail énorme.
Oui, oui. Et j'imagine que quand on est président, co-président, enfin, j'imagine qu'on a aussi peut-être des commissions on délègue forcément du travail aux autres aussi.
Ah bon, on est obligé. On a les secrétaires, on a le trésorier, on a voilà. De toute façon, tout le monde est bienvenu chez nous pour tous ceux qui veulent travailler. On a quelque chose à leur donner. Tous ceux qui veulent s'investir dans le club, il y a pas de souci.
D'ailleurs, tu parlais de dirigeants motivés. Bon, j'imagine que dirigeants bénévoles, ça, c'est à peu près du pari eux-mêmes. Hein.
Les dirigeants ne sont que des bénévoles.
Oui, voilà. Combien de bénévoles vous avez à peu près au sein du club ?
Je note ça. Alors, on est 24 dirigeants.
D'accord.
Voilà. Alors, dans le dirigeant, on comprend tout. Hein. Ça va des éducateurs. Voilà, les éducateurs ou coachs de la première.
Oui, bien sûr, tous ceux qui ont une licence dirigeante au final.
Voilà.
Ouais.
Et en termes de bénévolat, on n'est forcément jamais assez. Quels seraient potentiellement, et puis surtout d'un point de vue plus large, quels sont un peu les axes où le club doit encore progresser, grandir dans les prochains mois, prochaines années?
Tous les axes. On n'est jamais au bout. Hein. Vous savez bien que... Il y a toujours des choses à faire mûrir, à faire grandir. Mais nous, ce qu'on a besoin, et ce qu'on veut, je l'avais déjà dit l'année dernière, ce qu'on veut, c'est on veut pas être un grand club comme la SACAN. Ce qu'on veut, c'est que les gens viennent porter fièrement notre équipe de La Rochefoucauld. On veut qu'il y ait effectivement une dynamique, mais on veut pas mal de jeunes, on veut des belles infrastructures, mais on veut garder notre identité.
Oui. Oui, c'est vraiment important de garder cette base-là.
Et puis on essaye aussi, enfin moi j'essaye en tout cas d'avoir de bonnes relations avec la mairie, parce que je peux les remercier eux aussi, parce que toute infrastructure, c'est eux qui gèrent la tonte du terrain, le traçage du terrain, le nettoyage des vestiaires, ça c'est pareil, la commune, on peut lui dire un grand merci, plus la subvention qu'ils nous amènent. Donc ça, j'essaye de l'entretenir au maximum. Et ce qui nous manque, nous, chez nous, surtout, c'est des gens avec du temps, quoi. Tous mes dirigeants et bénévoles sont tous ou salariés ou chefs d'entreprise. Donc, personne n'a du temps à consacrer à 100% pour le club. Donc, et ça, des fois, c'est compliqué.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7. Merci de votre fidélité encore une fois. Vous écoutez Attitude et c'est votre émission Culture Sport. Émission des sports, pardon, chaque lundi 19h-20h30. Nous recevons aujourd'hui le club de rugby de La Rochefoucauld, Brice Coulombex et Christian Lamazerogne qui répondent aux questions d'un autre Christian, qui est le nôtre, donc d'Attitude. Christian, c'est à toi.
Oui, je suis pas encore président d'ailleurs, peut-être un jour, mais je pense pas.
Ça vient
vous pouvez venir si vous voulez. On vous accueillera.
Moi, j'ai pas les épaules pour être président, et puis je suis tout gringalé, donc dans une mêlée, je me ferai.
Il faut de tout en vie, Christian. Il faut des.
C'est vrai.
Il y a les joueurs de piano et ceux qui les déménagent.
C'est vrai. Moi, je verrais plutôt sur une parce que je suis pas très gros et je cours vite, donc du coup.
Il nous en faut.
Et ben voilà.
Et si vous avez un bon billet en plus en tant que footballeur, on prendra peut-être pour.
Moi, je suis pas vraiment footballeur. Moi, je suis plus dans les cabines de presse ou dans les tribunes.
Ah bon, merci.
Messieurs, une question pour vous. On va essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à notre émission. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé à la tête de la Fédération française de rugby ?
Bon, ben vous savez, par rapport les seules choses qu'on peut dire par rapport à M. Laporte, c'est que le temps de sa présidence, nous, en tant que petit club, il nous avait donné une télé. Il nous a doté de Canal+. On a eu 3 jeux de maillot grâce à lui. Donc, on peut dire que nous, par rapport à nous, ce qu'il a fait, il avait fait du bon job. Après, derrière, tout ce qui est politique et derrière, nous, on n'a pas trop d'avis. Hein.
Et puis du coup j'avais une question par rapport à ce qu'avait dit Christian par rapport à la municipalité de la Rochefoucauld. C'est vrai qu'en plus la Rochefoucauld c'est une ville qui est hyper sportive. Il y a du foot, il y a du hand, il y a du rugby, il y a aussi du vélo. comment se passent vos relations avec les autres clubs et puis parle-nous un peu de cette ville municipale qui tombe bien en termes de sport.
Bah, par rapport aux autres clubs, je sais, par rapport au football, bah, pour l'instant, ça se passe à peu près bien. Hein, donc, quand ils ont besoin de nos infrastructures, on prête. Quand on a besoin des leurs, bah, ils s'arrangent aussi à nous les prêter. Donc, pour l'instant, bah, il n'y a rien à dire. Après, bah, la mairie, c'est pareil. La mairie, chaque fois qu'on a besoin de tables ou de chaises pour une manifestation et tout, ils répondent présents. Là-dessus, on est vraiment chanceux.
Non mais, et puis par rapport donc en prenant de la hauteur comme disait Didier, moi je vais pas vous parler de politique, ça m'intéresse pas trop, mais je vais plus vous parler de sportifs. Le SA15, on espère forcément qu'ils vont se maintenir en Pro D2, on est d'accord. Absolument. Est-ce que vous avez des rapports avec eux, enfin concrètement ça, qu'est-ce que ça vous apporte vous entre guillemets petit club charentais d'avoir une locomotive comme le SA15 qui est en Pro D2 en ce moment?
Peut-être justement l'arrivée des nouveaux joueurs qu'il y a eu cette année là, des joueurs qui n'avaient jamais joué au rugby, peut-être que le fait de voir une équipe comme le SA15 en Pro D2, voir des équipes qui ont un nom, quoi, c'est peut-être que ça les motive d'essayer, quoi.
Ouais, ça intéresse les gens du coup à la pratique.
Bah, je pense, oui, ça fait une belle vitrine au niveau du sport charentais, quoi.
Oui, et puis c'est nous, vous savez, on a un éducateur, tout le monde connaît Cagou. Alors, je vous donnerai pas son nom à l'antenne, mais
c'est un éducateur
qui est dans le costume. Ouais, tout à fait.
D'accord, bah, ça va lui faire un bon entraînement pour le dimanche, comme ça.
Donc, on a notre ami Cagou qui est donc avec le SA15, ouais, et qui est aussi un club de la Rochefoucauld parce qu'il partive activement aux manifestations, aux entraînements et à toute la vie au sein du club.
D'accord.
Je le remercie aussi parce qu'il est vraiment engagé sur pas mal de fronts et il a même une entreprise de peinture et il nous donne même un petit peu d'argent pour qu'on puisse continuer à vivre.
Bon, et bien sûr, secret défense sur son identité.
Ouais,
secret défense. Mais on peut citer le sponsor si vous voulez.
Hein. Le problème du sponsor, c'est que c'est son nom. Hein.
Ben, j'imagine bien, c'était pour ça là, que je vous posais la question. Mais est-ce qu'il y a, bah, du coup, question qui n'était pas prévue au programme, mais qui me vient à l'esprit en parlant de ça. Vous avez une mascotte ou pas au sein du club? Parce qu'on pourrait lui faire enfiler le deuxième costume sinon.
Alors, nous, on a une petite mascotte, c'est un nounours qui s'appelle Tao. Et voilà, c'est un petit truc, c'est le nounours de l'école de rugby.
Vous écoutez Attitude, c'est 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez bien Culture Sport, c'est votre émission. Chaque lundi, 19h, 20h30, où on parle de sport régional. Nous recevons l'Union de la Rochefoucauld avec Brice Coulombex et Christian Lamazerolle qui répondent aux questions du feu nourri de Christian. C'est à toi.
Et concrètement, bah, j'imagine que beaucoup de vos joueurs vont à Chanzy. Et puis j'imagine que des supporters de Chanzy viennent vous voir aussi jouer les dimanches.
Il y a plus que ça qui vont à Chanzy, parce que malheureusement les matchs étant le vendredi soir et nous l'entraînement étant vendredi soir,
oui,
c'est un peu compliqué.
Ouais. C'est là où le bas blesse, je dirais. Mais effectivement, par rapport au SA15, vous avez raison de le souligner, on est quand même chanceux d'avoir cette équipe en Pro D2, parce que ils ont la gentillesse de nous inviter en tant qu'école de rugby pour aller voir les matchs. Et aussi, on a participé 3 fois cette année à être ramasseurs de balles. Les U14 sont ramasseurs de balles à Chanzy, et ça leur permet de serrer la main à des anciens joueurs de top 14, et peut-être nouveaux joueurs de top 14, et des très bons joueurs de Pro D2.
Ah oui, c'est super expérience ça.
Ouais.
Non seulement on côtoie des joueurs, et puis surtout... On est presque sur le terrain avec un Chanzy qui est rempli de plusieurs
milliers
de spectateurs.
Ils sont sur le terrain. C'est eux qui essuient le ballon pour les touches et tout. C'est vraiment. Et à la fin, les sportifs, les rugbyman sont vraiment sympas. Les prennent avec eux, prennent des photos. Franchement, c'est vraiment très très chouette pour eux.
C'est bien ça de faire participer aussi les autres clubs de Charente.
Ouais, pour ça, c'est ce que je vous dis. On peut leur en remercier parce que cette vitrine-là fait du bien à notre club.
Bon, et puis il y a une deuxième vitrine, c'est l'UCS, Cognac. Alors peut-être que vous, vous êtes plus proche d'Angoulême, donc peut-être que vous, ouais, vous regardez un peu moins ce que fait Cognac, mais c'est vraiment important que ce soit le SA15, Cognac, l'UBJ aussi, c'est vraiment important d'avoir ces équipes-là qui représentent le département le plus haut possible.
Ouais, non, mais ça, vous avez raison. Nous, le gros problème, c'est qu'on est un parent pauvre. Le bassin charentais est un parent pauvre du rugby. Et c'est vrai que plus on aura d'équipes hautes et plus on aura d'équipes entre guillemets, plus ça favorisera un petit peu l'émulation chez les jeunes.
Oui, oui. Et puis j'imagine que avec l'agrandissement de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors auparavant, il y avait peut-être la Vienne et les Deux-Sèvres. Je ne sais pas trop s'ils ont beaucoup de rugbymen, mais en tout cas, ils n'ont pas forcément d'équipe de haut niveau. Mais c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est Gironde, avec toute la densité de population qu'il peut y avoir, Limoges, avec beaucoup de clubs en fédéral 1, fédéral 2, ou alors vraiment le sud de la région, où voilà, le rugby c'est une deuxième religion. C'est vrai qu'on s'aperçoit que qu'en Charente, on y est bien, mais qu'on est un petit poussé par rapport à tous ces départements.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, c'est vrai qu'on est un des parents pauvres du rugby français. Et on le voit sur pas mal de choses au niveau effectif, sur nos résultats en sélection, Charente. On a des réunions de boulot sur ce bassin où on essaye de mettre en place pas mal de choses pour essayer de redorer un petit peu ce blason charentais. J'espère qu'on va y arriver. Tout le monde essaye de tirer dans le même sens pour qu'à un moment donné, la Charente soit fièrement représentée au niveau national.
Disons que la Charente aussi, on peut le voir aussi au niveau de la distribution des équipes dans les catégories, c'est qu'en R3, on a 6 clubs charentais. Et après, plus on monte, plus les clubs charentais...
Il n'y a pas beaucoup d'équipes de
sang. C'est la peau de chagrin, ouais.
Il y a qui du coup au-dessus? Donc il y a la Couronne en R1, c'est ça?
Voilà, la Couronne en R1.
Après, vous avez oublié Jonzac est en R2.
D'accord.
Et Pont.
Non, Jonzac. Ouais, Jonzac, Pont est en R2 aussi.
Voilà, mais Pont, c'est la Charente-Maritime. Jonzac, c'est la Charente-Maritime.
Et Jarnac?
Ah non, Jarnac, excusez-moi, oui, c'est moi, Jarnac.
Ouais, ça commence pareil, ça finit pareil. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben on va forcément parler de la Coupe du Monde de rugby, on l'a évoqué en début d'émission. Le fait que ce soit en France pour vous, j'imagine que ça va être un moment génial. Est-ce que le club a prévu de s'organiser pour les matchs ou voire même potentiellement d'aller voir certains matchs dans le stade? Enfin, quel est un peu vos regards sur cet événement qui forcément est un événement hyper marquant pour le rugby?
De toute manière, effectivement, le club a prévu de diffuser les matchs. On va essayer de faire ça le mieux possible si on pouvait avoir un écran géant et faire ça sur le stade, en fonction de la météo, bien entendu. Aller voir les matchs, ça a été très compliqué parce qu'en fait, la FFR nous a pas donné la possibilité d'avoir des groupements de place pour se déplacer. Donc par rapport à ça, c'était un petit peu dommageable.
Ah oui, effectivement. Donc peut-être que certains de vos éléments iront, mais
voilà,
à titre individuel, ouais.
Ouais.
Derrière, nous, on espère qu'on aura pas mal de retombées par rapport aux jeunes. Déjà, on supporte l'équipe de France, bien entendu, parce que c'est cher dans notre cœur. On espère qu'il va nous ramener un trophée, mais on aimerait bien aussi avoir une retombée pour les enfants. Et aussi pour les seniors, hein, parce que derrière, vous voyez le Tour de France, il n'y a jamais autant de cyclistes dehors quand il y a le Tour de France. Et bien là, c'est pareil. J'espère que la Coupe du Monde en France va nous donner un maximum de jeunes et leur faire voir et leur faire découvrir un petit peu notre beau sport, qui n'est pas non plus un sport de brut, comme le laisse entendre pas mal de médias.
En tout cas, on vous souhaite beaucoup plein de petits Dupont, plein de petits Mtamak, plein de petits bails pour garnir vos rangs au sein de l'école de rugby.
On y travaille.
C'est gentil, merci beaucoup.
Parfait. Merci à vous, on vous souhaite le meilleur, Brice et Christian, voilà. En plus, je devrais pas, là, j'ai tout faux. Donc, on vous souhaite le meilleur, donc merci encore une fois d'avoir accepté notre émission. Ça sera avec plaisir qu'on se retrouve au minimum une fois par an, de manière à parler d'un club qui est fortement ancré dans la région, qui fait un gros effort au niveau des écoles de rugby, qui perpétue la tradition du rugby en Charente. Merci encore à vous, messieurs, et à très bientôt de vous
avoir. Merci à vous, et puis je vous rappelle que le 11 juin, nous organisons notre cochon à la broche.
Pas de problème.
Merci beaucoup, au revoir.
Tout sera sur Facebook.
À très bientôt, au revoir, messieurs.
Attitude, des rythmes et du style.